Are you racing or watching?
La dispute. Littérature. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Clémence Pouletti et Philippe Chevillé pour parler ensemble du continent de la douceur d'Aurélien Bélanger chez Gallimard, Ici n'est plus ici de Tommy Orange chez Albin Michel, Keren de Kevin Lambert au Nouvel Attila, et puis il y aura un coup de cœur de Philippe Chevillé pour Les réfugiés de Viet Thanh Nguyen chez Belfond. Nous ouvrons cette dispute avec le nouveau roman Fleuve de notre camarade Aurélien Bélanger, que vous pouvez entendre évidemment chaque matin en conclusion de la matinale de Guillaume Erner, mais on s'intéresse là à l'écrivain Aurélien Bélanger, qui s'est beaucoup intéressé, on le sait, à la France dans ses premiers ouvrages, qui a ouvert son spectre, j'ai pas dit son sceptre, mais pour l'élargir à l'Europe et a pour l'occasion inventé une principauté, donc celle du Karst. Toute ressemblance avec une ou d'autres principautés ne serait sans doute pas tout à fait fortuite. On écoute un extrait situé plutôt au tout début de ce livre d'Aurélien Bélanger, une lecture faite par Boris Pinault.
Jan von Karst rencontra sa future épouse à New York en 1985 dans l'atrium en marbre rouge de la tour Venezia, siège de la banque que celle-ci dirigeait et dont il avait l'habitude de recommander les produits financiers à ses clients. Il parlerait toujours d'un coup de foudre. Jan était au firmament de sa carrière de playboy, de cette vie indolente qu'il se voyait bien continuer toujours auprès de sa clientèle raffinée et festive, entre Gstaad et Davos, Saint-Tropez et Ibiza. Mais il se savait trop pauvre pour résister longtemps à un mariage et Ida représentait l'épouse idéale. Elle n'était pas la plus riche ni la plus belle de ses prétendantes, mais elle était d'origine Karst comme lui, et comme lui condamnée à l'exil, une sombre histoire de mésentente familiale. Elle était aussi plus âgée que lui, ce qui rendait improbable qu'elle lui donne un jour un héritier. Mais le royaume de Jan n'existait plus, et cela faisait longtemps qu'il avait subi une vasectomie pour se mouvoir plus librement dans le royaume de substitution qu'il avait choisi, un royaume rempli de princesses amoureuses et de mannequins opportunistes. Elle s'appelait Ida Spitz et avait été surprise que ce nom ne lui dise rien. La famille Spitz, lui avait-elle appris, avait quasiment remplacé les von Karst. Son oncle Ferdinand avait ainsi été le premier président de l'État fédéré du Karst. Jan ignorait tout cela. Son père avait fui le duché 50 ans plus tôt et il n'avait plus aucun contact avec le Karst. Il était citoyen monégasque. La Yougoslavie ne l'avait jamais vraiment intéressé. Il avait tout au plus failli se rendre aux Jeux de Sarajevo l'année précédente pour accompagner l'unique représentant de la délégation monégasque, un ami à lui, un très bon skieur qui était arrivé 47e de la descente à seulement 10 secondes du médaillé d'or. Mais il avait dû suivre la compétition à la télévision car son visa lui avait été refusé. À cause de son nom, apparemment. Comme s'il préparait un coup d'État, une restauration. Alors qu'il devait rester 10 personnes tout au plus dans toute l'Europe à lui donner le titre de prince, et la plupart du temps de façon ironique. Il n'était même pas convié aux cérémonies officielles monégasques. Quoique la raison en fût peut-être à chercher ailleurs, avait-il ajouté, songeur.
Après cette lecture du début du livre, enfin pas tout à fait le début, j'ai évité le début, j'en parlerai tout à l'heure, du continent de la douceur d'Aurélien Bélanger, un premier tour de table rapide celui-ci, pour donner un résumé de votre sentiment au sujet de ce livre, Clémence Pouletti.
Je suis très très enthousiaste.
Bon, voilà qui est dit. Philippe Chevillé.
C'est un retour vers le futur de l'Europe, érudit, forcément érudit et baroque.
Bon, Lucille Como.
Moi, je me suis un peu perdue dans cette épopée européenne dont il tire différents films. Mais ce que j'aime, comme toujours chez lui, c'est son sens du jeu.
Le jeu, J.E., c'est celui de Clémence Pouletti qui commence à nous parler du continent de la douceur d'Aurélien Bélanger.
Alors, j'ai absolument adoré. Une première collaboration avec sa nouvelle éditrice Motsimono, dont je suis très fan, donc j'étais contente de voir tous les deux réunis. Un grand roman d'un grand écrivain qui définitivement maîtrise et la langue, et le vocabulaire, et la grammaire, et le sens du rythme et du récit. Ici, on a donc contrairement à d'habitude, il nous a mis plusieurs petits chapitres. Donc on suit à la fois Flavio, son enfance, son adolescence, son âge adulte, et puis le couple Ida et Yann, un couple que j'ai adoré. Alors Ida, dans le rôle de la richissime banquière, héritière, à l'histoire complètement folle et romanesque, et puis Yann, qui m'a fait au tout début penser un peu à un personnage de Bret Easton Ellis, dans le genre playboy, beau gosse, pas très futé, et puis qui finalement va passer de collectionneur de femmes à collectionneur de timbres, j'adore. J'aime beaucoup l'humour de Bélanger. On retrouve effectivement ce que tout le monde en parle dans les médias, le personnage de QPS qui nous fait penser à un autre intellectuel français aux trois lettres. Oui. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais dire que c'est pas ce que j'ai le plus retenu du roman. J'ai beaucoup aimé cette idée de conte pour adultes dans cette principauté imaginaire, que j'ai aimé tout. J'ai aimé aussi beaucoup les moments de... Non mais c'est vrai que j'ai tout aimé. En fait, je me suis perdue moi aussi dans le livre. Et en fait, j'ai aimé ça. Et je me suis même dit que ce roman était si riche et si dense qu'il fallait le lire plusieurs fois. Je l'ai pris comme un conte métasymbolique. Tant et si bien que peut-être que j'en parlerai plus tard, je me suis amusée à chercher des références qu'il avait pu avoir. Je me suis amusée aussi à décrypter certains de ses symboles. Et j'ai trouvé deux, trois petites choses qui m'ont amusée. Je
vous en parle. Vous les gardez pour tout à l'heure? Oui. Très bien. Un bel effet d'aguichage. Philippe Chevillé.
Alors moi, je pense un peu comme Lucille. Au départ, j'ai presque eu envie de pleurer dans les premières pages parce que je me suis dit, oh là, je vais pas réussir les mathématiques. Pour moi, c'est trop...
Bon, d'abord, c'est une collection de personnages. Le premier chapitre, c'est quand même assez long. C'est la collection de personnages réunis.
Oui, d'abord, il y a ça. Mais après tout, je d'abord. Me suis dit, le côté romanesque, on va s'en sortir. Mais quand je suis tombé dans les mathématiques intuitionnistes, la fin de l'histoire, et surtout la description des mécanismes d'engrenage, d'horlogerie, d'armement, etc. Il y a eu des moments où je me suis dit, je vais pas y arriver.
J'étais en panique.
Et puis, mais c'est quand même pendant tout le livre, mais c'est vrai que petit à petit, évidemment, je suis rentré dedans. Et je trouve que le contraste entre donc cette partie érudite qui est parfois un peu too much et en même temps ce côté cette trame romanesque qui fait penser évidemment à des opérettes, à Tintin, à des romans à énigmes policiers, le contraste entre ce côté très 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 baroque justement de l'intrigue qui devient plus compréhensible au fur et à mesure qu'on avance dans le roman et les notations érudites, ça fonctionne. Et surtout sur le fond, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils racontent l'Europe. Il suffit de rajouter un petit pays qui n'existait pas, qui ressemble à d'autres principautés, mais qui n'existe pas, pour nous faire une vision un petit peu décalée de toute l'histoire européenne et qui dit finalement beaucoup de choses, à la fois évidemment sur les oppositions actuelles, sur le libéralisme, le nationalisme, l'humanisme, la barbarie. C'est très intéressant de voir comment il arrive à travers cette fable qui est en plus teintée d'humour, puisqu'il y a effectivement le personnage de BHL, mais il y en a d'autres qui donnent un humour caustique au livre. Ça fait que finalement, moi, à la fin du livre, j'avais l'impression finalement d'avoir lu un livre assez réjouissant et assez simple. J'avais oublié que je m'étais perdu à plusieurs moments.
Bon, bah, c'est le résultat qui compte, n'est-ce pas, Philippe Chevillé? On reviendra là-dessus. Lucille Comeau, pour développer ce premier point évoqué tout à l'heure.
Oui, Philippe, vous citiez plein de mots en isme, et c'est vrai qu'il y a une poétique, vraiment, c'est de l'ordre de la poétique, la poétique du mot en isme chez Aurélien Bélanger, et du coup de la digression, du coup, pour le vocabulaire technique, qui me paraît cependant peut-être moins flagrant dans celui-là, qui est un petit peu plus court que les derniers. En l'occurrence... À nouveau, oui, tout est relatif. Non, c'est quand même un gros livre. Mais à l'intérieur, en effet, les chapitres sont extrêmement courts. D'ailleurs, c'est drôle comme ils sont calibrés. C'est évidemment fait exprès. Ils font presque tous, je sais pas, 6 feuillets. Enfin, c'est vraiment assez scientifiquement pensé, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce rapport au sérieux. À quel moment est-ce que vraiment il y a thèse sur l'Europe ou sur le libéralisme ou sur tous les mots en isme dont vous avez parlé? Et à quel moment est-ce que la thèse compte dans la construction romanesque. Et là, j'avoue que moi, je me perds, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que le livre me dit de la construction européenne, et j'ai très vite lâché l'affaire de ce point de vue. C'est-à-dire que je voyais revenir les grandes références, Maastricht, la guerre en Yougoslavie, Jean Monnet même à la fin, et tout ça finissait par plus du tout m'intéresser d'un point de vue historique ou social ou économique, mais à former une sorte de galaxie dans laquelle je circulais finalement assez bien, qui est vraiment celle d'un roman, pour moi, plus qu'un roman policier, un roman pour enfants. Il y a quelque chose de très enfantin dans la manière dont Aurélien Bélanger se saisit de la forme romanesque. En effet, vous le disiez, Clémence, c'est un conte, c'est une fable politique à la Voltaire. Voltaire est cité à plusieurs reprises. C'est vraiment là-dedans que je m'épanouis, moi, en tant que lectrice. C'est dans l'énigme. Alors, il y a des petites choses qui sont tout le temps cachées. Il y a plein de trucs cachés. Il y a un petit Playmobil que un des personnages principaux, Flavio, enfouit dans sa porte, parce que sa porte est cassée. Puis en fait, son grand-père recouvre la porte d'enduit. Et donc, il y a ce petit Playmobil dont on ne sait pas ce qu'il adviendra. Il y a un carnet, garder le mystère. Tout ça, cette espèce de cœur, puis il est tout le temps question de cœur, les cœurs à l'intérieur des pierres de quartz, les cœurs à l'intérieur de la forêt, tous les cœurs autour desquels on tourne m'intéressent. Après, on peut en parler, mais du coup, il y a une forme de vanité aussi de la forme du roman politique là-dessus que j'ai du mal à saisir. Le personnage de QPS, donc, qui est BHL, hein, on peut le révéler, c'est évident, qui est un avatar de BHL.
Philippe l'a déjà dit.
Quoi faire de ce personnage-là. On sent que le narrateur s'en saisit pour quand même en dire quelque chose de son évolution, de l'évolution de sa pensée. C'est un peu rapidement évoqué à la fin.
Oui, il est très présent à la fin et c'est un peu compliqué.
Oui, c'est très vite, surtout à la fin. Sa non-adaptation numérique, sa croyance tout le temps renouvelée dans le libéralisme qui s'affronte aux théories du complot et à la nouvelle génération. Ça, c'est très, très vite emmené à la fin. Et alors, du coup, où est le sérieux? Enfin, moi, c'est vraiment la question que je me pose.
C'est vrai que moi, j'aurais bien fait une version édite quand même de ce roman où j'ai sans doute moins aimé que vous trois de me perdre, je l'avoue. Alors, j'ai quand même du goût pour les livres et pour Aurélien Bélanger, notamment le matin, sur cette antenne. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des fulgurances. Au tout début, la première fois qu'on rencontre le personnage de Flavio, il y a tout un chapitre qui consacrait la valeur des billes, ces billes avec lesquelles on joue à l'école. Et ça, c'est absolument magnifique. Et moi, j'attends ça. Et j'en ai pas assez de moments comme ceci. Allez-y, Clémence Poletti. Coupez-moi la parole, vous êtes là pour ça.
Excusez-moi, je suis désolée.
Vous en prie.
Sauf, non, vous avez raison, je voulais parler des billes et de ces moments de tendresse, avec les albums Panini.
Tendresse, mais pas que, parce que ça dit des choses.
Là,
on est dans une métaphore limpide, simple, efficace, juste.
Et même ce qu'il lit, quand il lit les billes à la mélancolie, les albums Panini, le personnage d'Olivier. Il est formidable, le personnage d'Olivier. Simplement, je voulais rajouter quelque chose à propos de BHL, mais ça me fait de la peine de dire BHL, à propos de QPS.
Oui.
Ça donne lieu à des pages qui sont remarquables. La page 255 à 258, je les ai lues en riant. Je ne me suis pas arrêtée de rire en lisant ces pages. Et justement, alors c'est terrible parce que moi, quand on m'a parlé de ce livre, depuis le début, on parle de BHL. On me dit, tu verras, il y a BHL. Et du coup, c'est vrai que ça tombe presque à plat. Et en même temps, il intervient pour donner une espèce de nouveau souffle à mes récits. Et je voulais dire aussi, il y a plein de choses à dire sur ce livre. Je voulais vous dire quelque chose que j'ai remarqué. Je me suis amusée, donc je vous disais tout à l'heure, à aller chercher... essayer de résoudre ces petites énigmes. Et en fait, Spitz, vous savez, cette horlogerie de cartes, tout ça. En fait, j'ai commencé un petit peu à fouiller. Et Dan Spitz, c'est un musicien guitariste américain d'un groupe de hard metal, dont j'ai oublié le nom, évidemment. Mais il était aussi horloger. Et j'ai envie de savoir s'il l'a fait exprès ou pas.
Il y a plein de choses
comme ça. Ça m'a vraiment beaucoup amusée. Et le personnage d'Olivier, moi, je suis complètement fan de lui. Et
pourquoi ? Il faut lui écrire, expliquer un peu qui il est. Un tout petit peu, quand même.
Oui, c'est ça. Alors, Olivier, c'est le personnage qui est un peu traumatisé lors de son enfance, Flavio. C'est un personnage qui d'un coup débarque dans son enfance, devient le roi de la récréation, la cour de création. Il arrive à mettre tout le monde contre Flavio avant de finalement abdiquer et il va revenir. Mais on ne dit pas quand, on ne dit pas pourquoi, on ne dit pas comment.
Lucille Pomo.
Oui, sur le mélange, ce que je trouve très bien fait, et à mon avis, ce qui est quand même très difficile à faire, et là, il a une recette, clairement, c'est ce mélange entre ce qu'on connaît, l'événement historique, la personne, et y compris des personnes qui vivent encore aujourd'hui, qui ont encore une activité intellectuelle ou politique, et l'invention totale, sans que ça paraisse décoller. C'est-à-dire que la suture, on ne la voit pas. Moi, je la vois jamais. Mmh. Et ça, c'est quand même très fort, parce que ça pourrait être complètement bancal en permanence. C'est une forme de naïveté, je crois, peut-être de sa part, qui est extrêmement productive et efficace d'un point de vue romanesque, c'est de croire que on peut balancer un faux pays dans un contexte qui par ailleurs est extrêmement documenté très précisément. Par exemple, la guerre en Yougoslavie, la manière dont elle est traitée avec ses principaux protagonistes, ce qui suit derrière comme conséquence, c'est extrêmement documenté et très très juste, je crois.
Oui, parce que dans ce premier chapitre que j'évoquais, qui est quand même assez drôle, c'est toutes ces galeries de personnages pour beaucoup fictifs, et tout d'un coup, c'est Juncker, Barroso qui font de la varap ou Strauss-Kahn, je ne sais plus quelle. Strauss-Kahn, pour de la Croix-Branche, pardon.
Dans la petite carte. Oui. Mais voilà, par exemple, ce pays carte qui a rajouté dans un, c'est assez à l'image de l'Europe, donc dans une Union européenne qui est déjà complètement éclatée, où on n'a même pas, moi je me souviens plus des dates d'adhésion, mais il y a un nombre de pays qui ont.
Bon, non, comment c'est possible, évidemment.
On n'a plus tellement cette construction, mais elle est d'une complexité maintenant totale, et lui, il rajoute un élément de complexité qui est le carte, c'est donc un élément complètement fictionnel, et ça fonctionne quand même.
Il est fort.
Oui. Oui.
Philippe Chevillier.
Alors d'abord, sur les personnages, c'est vrai que ça fonctionne par couple. On a les princes, le prince et la princesse, Karst et puis Ida, la banquière. Et puis, on a face à QPS, c'est-à-dire BHL, on a le Griff, cet écrivain nationaliste qui devient complètement fou et facho sur la fin. On a Flavio et Olivier, donc qui sont un peu les héritiers. Donc finalement, ça nous sert de guide dans l'histoire. Et sur le plan politique, ce que je trouve intéressant justement, c'est qu'il y a il ouvre des portes. Il va justement, il ne nous assène pas de discours pour le coup, et il arrive à quand même. Je pense que le titre est assez génial, le continent de la douceur, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment, il embrasse vraiment un continent, et la façon dont il le brocarde, puisque c'est satirique, c'est une fable satirique, c'est avec une certaine douceur. C'est-à-dire que si on peut comparer à un Houellebecq qui serait peut-être allé au bazooka, lui, il donne un peu une chance au personnage de s'en sortir. Même sa caricature de BHL n'est pas si méchante que ça finalement. Au bout du compte,
pas vraiment une caricature.
Non. Ouais, c'est plus. Non mais
quand vous dites il nous assène pas de vérité, c'est alors c'est qualité ou défaut ou les deux en même temps. C'est peut-être aussi la limite du livre. En tout cas, son horizon politique, il est pas. Enfin, vous l'évoquiez. Hein,
il existe, mais il est flou. Mais on en reparlera après avec Tommy Orange, parce que c'est passionnant de comparer avec un roman américain qui parle des États-Unis d'aujourd'hui. On sent qu'il y a, on en parlait d'ailleurs jeudi dernier, une sorte d'esprit très français qui préside, à mon avis, à l'écriture de ce roman, qui est ne pas se lancer vraiment dans l'épopée. Alors, il y a plein d'indices de l'épopée au niveau stylistique, au niveau formel, mais le souffle de l'épopée, il n'est pas dirigé dans une direction, en fait. Il est dirigé dans plein de petites directions. C'est pas un mal, ni bien ni mal, en fait. C'est juste que c'est un facteur de questionnement, je trouve, pour le lecteur.
Le dernier mot de Clémence Pouletti, l'enthousiaste.
L'enthousiaste. Moi, je l'ai trouvé très français dans sa manière d'appréhender la littérature et la langue, et dans la forme du récit. Et je pensais à ce moment-là à Umberto Eco, qui disait que, alors j'ai noté la phrase, mais une partie de la phrase, une pluralité de signifiés qui coexistent en un seul signifiant. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé chez Bélanger. Et justement, c'est très drôle d'avoir à comparer avec les deux prochains dont nous allons parler, parce que le continent de la sœur, j'ai trouvé très très français dans ce qu'il dit de la littérature, dans la manière dont il la travaille.
Dernier mot, allez, Philippe Chevillier.
Je voulais juste te dire que quand même je trouvais que ce roman, mais c'est peut-être moi qui ai cette lecture-là, est quand même assez pro-européen, avec et donc c'est quand même ce qui ressort. Donc il y a cette tendresse, une douceur pour l'Europe.
C'est vrai. On finira sous cette douceur. Aurélien Bélanger, le continent de la douceur, c'est chez Gallimard que ce livre est publié. À suivre dans la dispute, Tommy Orange, Kevin Lambert et Viet Thanh Nguyen.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Ici n'est plus ici. Tommy Orange, publié chez Albin Michel, dans une traduction de Stéphane Rock. Il est né en 1982, Tommy Orange, et les métis, père Cheyenne, mère blanche. Mais c'est bien sûr à la condition des Indiens dans l'Amérique contemporaine que s'intéresse son premier roman, acclamé par la presse américaine. Un roman dont nous découvrons un extrait, lu par Aïssa Tundoy.
Nous avons été définis par tous les autres et continuons d'être calomniés, malgré des faits amplement vérifiables sur Internet quant à la réalité de notre histoire et l'état actuel de notre peuple. Nous avons la triste silhouette indienne soumise et les têtes jetées à bas des marches d'un temple. Nous avons cela dans la tête. Kevin Costner nous sauvant, le six coups de John Wayne nous abattant, un Italien du nom d'Iron Eyes Cody jouant notre rôle dans les films. Nous avons l'Indien de la pub, affligé de voir tant d'ordures répandues, l'alarme à l'œil, toujours Iron Eyes Cody, ainsi que l'Indien fou, qui lance le lavabo sur une baie vitrée dans vol au-dessus d'un nid de coucou, et qui est le narrateur, la voix du roman. Nous avons tous les logos et toutes les mascottes. La copie de copie de l'image d'un Indien dans un manuel scolaire. Des confins du nord du Canada, du nord de l'Alaska, jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud, les Indiens ont été éliminés, puis réduits à l'image de créatures à plumes. Nos têtes figurent sur des drapeaux, des maillots et des pièces de monnaie. Elles ont d'abord figuré sur le penny, bien sûr, le centime frappé d'un Indien, puis sur le nickel, frappé d'un bison, avant même que notre peuple obtienne le droit de vote. Des pièces qui, comme la vérité de tout ce qui s'est produit dans l'histoire partout à travers le monde, et comme tout le sang versé dans les massacres, n'ont désormais plus cours.
Premier sentiment sur celui de Tommy Orange, ici n'est plus ici, Philippe Chevillé.
Eh bien, c'est un premier roman implacable sur les Indiens des villes.
Lucille Comeau.
Oui, c'est vraiment très intéressant parce que c'est l'archétype du roman américain d'aujourd'hui avec ce que j'aime dedans, son efficacité et ce dont je me méfie beaucoup aussi.
On va voir de quoi il s'agit. Clémence Pouletti.
Un roman important, prenant mais éprouvant.
Bon, on développe maintenant avec Philippe Chevillé qui va nous en dire un peu plus sur sa structure peut-être quand même aussi avec cette introduction, avec ces différentes figures, chaque chapitre là encore court par personnage, Philippe.
Oui, parce que c'est un roman choral, on en parle beaucoup du roman choral avec plusieurs personnages. On suit 12 personnages d'Indiens, d'Amérindiens à Auckland, avec en point final un grand pow-wow qui doit se dérouler. On va comprendre au fur et à mesure que ces personnages sont tous peu ou prou liés à l'organisation où vont participer à ce pow-wow. Et ce livre a quand même une structure particulière, parce qu'il n'y a pas que des chapitres avec éclatés avec des personnages qui s'enchaînent, avec les 12 personnages qui apparaissent. Ça commence par ces mots qu'on a entendus. C'est un genre de manifeste pour nous dire les Indiens sont dans la ville. C'était le dernier stade de l'assimilation. On voulait aussi peut-être nous faire disparaître en prenant tous les exemples des fois où les Indiens ont été massacrés pour chasser. Mais on existe et notre façon d'exister, je vais vous la raconter. C'est ce qui se passe dans ces 12 portraits qui se croisent, qui s'entrecroisent et qui sont... Alors, il faut le dire, c'est que c'est extrêmement... quand je disais que moi, c'était un roman implacable, c'est qu'il est implacable dans sa construction. Le côté choral, c'est quand même très imbriqué. Les personnages sont très imbriqués. C'est parfois difficile à suivre parce que les personnages, souvent, se ressemblent. Il y a deux, trois jeunes Indiens qui ont un petit peu le même style ou les mêmes... Ils ont tous les mêmes problèmes qui sont problèmes du manque de père, de l'alcoolisme, des mères qui ont été broyées. C'est vrai que c'est un roman qui est dur. Et dans la forme et sur le fond. Et on n'a pas seulement ce prologue, on a aussi un entracte, à un moment donné, pour nous expliquer ce qu'est un pow-wow, qui va annoncer la dernière partie, et je ne la raconterai pas, mais qui est quand même apocalyptique, et où on a une description qui... Et là, on passe à un style un peu différent, puisqu'on a une vision très panoramique d'un événement, avec tout ce qui s'y passe, et à la fois, c'est très cinématographique, c'est un peu en 3D, on est dans une modernité de description qui est plus proche du cinéma, donc l'air de rien, sous cet aspect choral un peu traditionnel du roman américain, alors, c'est très américain, mais il embrasse un peu toutes les formes, sachant que c'est aussi... un livre qu'il a porté, puisque c'est aussi son histoire, ce qu'il essayait de raconter. Et c'est vrai que ça nous sort des clichés de l'Americana. Donc on est là vraiment dans le dur de ce qu'est l'Amérindien d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'y étais sensible tout du long.
Lucille Comeau, impressionnée mais méfiante.
Oui, impressionné déjà très simplement parce que c'est une communauté qu'en France on connaît beaucoup moins et dont on connaît moins les discriminations qui lui sont propres en fait. C'est d'ailleurs assez terrible de le dire, mais il y a vraiment des fléaux qui sont propres à cette communauté indienne urbaine aux États-Unis. En l'occurrence, c'est beaucoup l'alcool, l'alcoolisme qui détruit les familles. Enfin, tous les personnages de près ou de loin sont concernés par l'alcool. Les femmes seules qui élèvent des enfants seules, qui sont parfois pas leur mère, le suicide et puis la drogue et la délinquance, mais dans un deuxième temps. C'est vraiment beaucoup, ça tourne beaucoup autour de drames familiaux liés à l'alcool. Donc ça, c'est extrêmement efficace parce que le roman choral rend totalement justice à une communauté en faisant un portrait qui est nécessairement démocratique puisque plusieurs voix, plusieurs registres, les personnages ne parlent pas du tout de la même façon. Il y a une question de classe qui entre en jeu aussi. Il y a des personnages qui ont fait des études, il y en a qui sont complètement en bas de l'échelle sociale.
Oui, il y a une vraie variété. Edwin Black,
voilà, exactement,
clairement un double de Tommy Orange.
Ça, on en reparlera. Ça contribue au fait que je me méfie un peu. En fait, ça me gêne pas, mais ce qui me laisse toujours un peu à l'extérieur de ce type de structure, c'est que derrière cette forme apparemment ultra démocratique du roman choral, il y a quelque chose de tellement maîtrisé, tellement au service d'un discours qui est en plus un discours en ce moment tenu par toutes les minorités américaines sur la manière dont on s'approprie et dont on raconte sa propre culture, qu'on ne peut faire que de son point de vue, en l'occurrence Tommy Orange, donc de lui-même amérindien, dépositaire de cette culture-là. Tout ça se sent beaucoup et se sent dans cette structure. Il est beaucoup question d'une toile d'araignées qui font partie de mythes et de contes que se transmettent les personnages. Et moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à une toile d'araignée, c'est-à-dire que c'est fascinant, c'est très beau, c'est implacable et redoutable, et c'est aussi un piège. Je pense que c'est aussi un piège pour la pensée. C'est un livre qui donne à constater beaucoup, à regretter beaucoup, mais je suis pas sûre qu'il donne beaucoup à penser sur la minorité amérindienne, sur ce qui se passe vraiment. Ça frotte pas beaucoup, il y a peu de place pour la réflexion.
Mais il faut peut-être quand même commencer par décrire avant de pouvoir penser.
Ah oui, bien sûr.
On est quand même au début de quelque chose par rapport à ce type d'écriture prise en charge par ceux qui racontent leur propre histoire. Enfin, je développerai dans un instant et vous y répondrez brillamment comme toujours, ma chère Lucille. Clémence Pouletti.
Alors,
par où on commence?
C'est ça. J'ai trouvé le schéma narratif très intéressant. Moi, ça m'a plu, ça m'a fait penser à Nancy Houston, à Natasha Appana. J'aime bien quand il y a plusieurs personnages, ce qu'on appelle le roman choral. J'aime bien me rendre compte que tous sont liés, que tous les destins sont liés. Il y a comme ça quelque chose presque de la fatalité qui me plaît. Même s'il m'a bien fallu 80 pages sur environ 300 ans pour me mettre dedans, pour comprendre, je trouve que c'est pas complètement facile non plus de retrouver chaque personnage, chaque nom, de se rendre compte qui est qui. Il y a quand même un petit effort à faire, mais c'est pas gênant.
Parce que sinon, c'est mélangé, ça vous dérange pas?
Non, exactement, hein, ce que j'étais en train de dire. Au contraire, je trouve la réflexion hyper stimulante. Mais là, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était accablant. Et que émotionnellement, moi, je trouve que c'est difficile à lire. Je trouve que toutes les formes de violence, dans ce qu'elles ont de plus sombre, y représentées. Je veux dire, on passe de... J'ai noté, hein, il y a le vol, le meurtre par accident ou non, l'exil, l'abandon, le viol, la pauvreté, la violence conjugale, l'addiction, l'alcool. Je veux dire, il y a absolument rien qui y va, en fait. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, c'est vrai que c'est un constat, c'est un récit, et c'est un récit très sombre qui, moi, m'a un peu plombée, mais que j'ai néanmoins trouvé intéressant. Et puis, c'est effectivement une histoire que je connais peu, voire pas. Et j'ai trouvé en ceci intéressant. Maintenant, c'est pas un roman dans lequel j'ai envie de me replonger immédiatement. J'ai trouvé les dernières pages quasi insoutenable. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à les lire. Je pense que si je n'avais pas à intervenir ce soir, je ne les aurais pas lus.
Oui.
Parce qu'il est vraiment dans la description la plus totale. Et par contre, mais ça, c'est encore autre chose. Moi, là où j'ai une petite réserve, c'est dans l'écriture.
Ah.
Voilà. Alors, j'étais un peu gênée. Je me suis dit, comment je vais le dire? Ça m'a pas emballée. En fait, j'ai trouvé que c'était une écriture assez plate et qu'il n'y a pas beaucoup de style. Et j'ai lu partout qu'il y en avait beaucoup. Du coup, je me suis un peu remise en question.
Mais vous dites ça, Clémence, et en même temps, vous dites que les dernières pages sont quasiment insoutenables.
Ah oui,
donc, il doit bien avoir quelque chose dans sa langue qui opère.
Oui. Mais dans ce qu'elle raconte. Oui, ouais. Complètement. Vous avez raison. Oui, c'est vrai.
Même une suite de mots qui font des phrases.
Mais en fait, j'avais besoin peut-être de lyrisme. Ah, là où il n'y en a absolument pas.
Alors, c'est une forme de lyrisme. Alors moi, pour vous raconter la petite histoire, je pensais faire l'impasse sur ce livre, ne pas le lire, vous écouter, hein, je le dis hein, toujours quand je ne l'ai pas lu, parce que la semaine a été chargée, puis j'ai commencé à le lire pour chercher un extrait pour la lecture qu'on a entendue tout à l'heure, et j'ai été complètement happé, mais alors tout de suite, hein, par ce livre. Donc je ne vous félicite pas Philippe Chevillé, parce que j'ai passé évidemment quelques heures. Non, je plaisante. Hein. Et moi, j'étais absolument attrapé, fasciné, intéressé, alors ô combien, parce que nous raconte et ce que nous apprend, parce que pour la plupart d'entre nous, ce que nous apprend Tommy Orange. Moi, alors pour le coup, cette langue, elle a opéré à plein sur moi, parce que vraiment, c'est un livre que je voulais absolument continuer tout le temps. Je voulais absolument savoir où ça allait, même si où ça va, on n'en parlera pas ce soir pour ne rien divulgâcher. Je trouve qu'il y a vraiment une force tout à fait impressionnante. Et pour revenir à la réserve assez conséquente de Lucille Comeau, cette idée que tout ça va dans un seul sens et que ça nous délivre plus un message que ça nous donne à penser. Je le disais, il faut peut-être commencer par avoir des... par savoir de quoi on parle pour pouvoir ensuite le penser. Je vous en fais intervenir juste après Philippe Chevillé et Lucille, parce que Philippe demande la parole.
Oui, non, parce que alors je suis d'accord sur la noirceur absolue, mais en revanche, je ne suis pas du tout d'accord sur le message qu'il nous assènerait. Il nous assène pas de message, parce que justement, ce qui est passionnant, c'est que tous ces personnages qui sont tous dans une situation tragique, ont un rapport à leur identité qui n'est pas clair. Ça. Mmh. On a même dans l'histoire, puisqu'on ne va pas raconter tous les personnages, mais il y a des petits malfrats qui veulent braquer le pogo, on peut le dire. C'est un des fils du roman. On n'ira pas plus loin. Simplement, donc eux, ils en ont rien à faire du pogo et de ce que ça représente quelque part. Et du coup, on a ces personnages qui essaient de se situer. Il y a évidemment celui dont on parlait, de Doon Black, qui veut filmer et faire des interviews, qui veut devenir documentariste. Mais beaucoup sont souvent en rupture de banc par rapport à leur propre identité et savent pas trop bien se définir. Ils sont dans la ville. À la fois, il veut nous dire que ces Indiens, ils ont une culture, une mémoire des massacres, de la sauvagerie, en même temps une mémoire de leur culture, de leur attachement à la terre, qui s'attache même aux buildings, etc. Ça existe. Mais on voit bien que tout s'y tâtonne. Et à la fin, en plus, comme la fin ne nous donne pas vraiment un motif d'espérance, je trouve que justement, on est dans des points d'interrogation qu'on n'a pas toujours dans certains livres français, dont, par ailleurs, il me semble que moi j'en lis moins, mais quelquefois je trouve on peut accuser les romans américains d'être dans un système. Il y a des romans français aussi
qui sont dans des systèmes.
Voilà.
Lucille Comeau.
Non, je suis assez d'accord avec vous. En effet, les personnages sont extrêmement différents dans leur rapport à leur identité indienne. Seulement, ils sont tous dans un rapport à cette identité et le livre nous pousse à la questionner en permanence. Je remets pas du tout, évidemment, il n'y a pas de discours unique. Simplement, cette forme-là, à mon avis, c'est quand même une forme fermée. Il y a un passage qui est assez intéressant au début. Donc, le fameux jeune qui veut faire du documentaire, qui s'appelle Déné, il met en place un protocole, comme on dit, pour interviewer différentes personnes de la communauté après avoir entendu parler d'un projet de son oncle qui est mort justement lui d'alcoolisme. Et tout au début du livre, il est question de du travail vidéo qu'avait pu faire son oncle, et il demande est-ce qu'il avait fait un scénario, est-ce qu'il avait interviewé les gens, est-ce qu'il avait retranscrit les interviews d'un bloc, ou est-ce qu'il avait complètement rescénarisé leurs histoires. Tout ça s'est posé au début, je me suis dit ah, ça c'est intéressant, parce que ça met en abîme dans le livre la question de ce fameux protocole qui est très américain d'écriture quand on écrit sur des sujets aussi sensibles. Et j'ai été un peu déçue par la suite de pas retrouver ce type d'interrogation dans la langue ou dans le style. C'est dans cette maîtrise, dans cette efficacité jusqu'à la fin qui est en effet très très prenante. Moi non plus j'aurais pas pu m'arrêter de lire ce livre, parce que il y a un niveau d'attente qui se forge, et avec cette espèce d'explosion finale qui est vraiment dans un suspense qui à mon avis fausse son efficacité politique d'une certaine manière. Oui, je pense que ça ne donne pas beaucoup à penser, parce que c'est trop efficace, justement.
D'accord. Bon, on sera en désaccord là-dessus. On termine, Clémence Politi.
Simplement, concernant la fin, je suis la seule à l'avoir deviné depuis le début. Il le dit explicitement, en plus. Ça pour dire que
c'est auditeurs qui nous écriront.
Oui,
pour savoir ce
que ça a été. À quelle page?
Mais oui, c'est ça.
Quelle page avez-vous deviné?
Il y a un moment où c'est effectivement, mais au milieu, je pense, mais pas au début.
Bon, on laisse avec plein de suspens cette dispute consacrée à ce livre de Tommy Orange, Ici n'est plus ici, qui est publié chez Albin Michel dans une traduction de Stéphane Rock. Et c'est l'heure du coup de cœur ce soir donné par Philippe Chevillier à...
Aux réfugiés, des nouvelles de Viet Thanh.
Et l'annonce d'un prix, non? C'est beau. On va faire ça à chaque fois. Les réfugiés, pardon, de Viet Thanh Nguyen chez Belfond.
Avec, dans une traduction, on l'a dit ou pas?
Non, j'attendais que vous le disiez.
De Clément Baude.
Bravo.
Joliment traduit. Et moi, j'avais envie de parler de nouvelles parce que c'est toujours bien de parler de nouvelles, surtout quand elles sont bonnes. Et j'aime beaucoup cet auteur qui a écrit ce roman, Le Sympathisant, qui est un gros roman, qui a eu le prix Pulitzer de la fiction en 2016, qui racontait la guerre du Vietnam à travers un agent double. Donc, ce qui nous permettait d'avoir une vision double du Vietnam, qui était à la fois avec de l'humour, de la violence, de la gravité. C'était magnifique. Et là, ce sont des nouvelles qu'il a écrites avant, sachant qu'il est arrivé donc avec ses parents au Vietnam dans les années 70, qu'ils ont fui le Vietnam en guerre. Et on a donc 8 nouvelles qui sont 8 nouvelles émotionnelles. 8 vraies nouvelles, c'est-à-dire que c'est pas des mini-romans, c'est pas des chroniques vagues, on a des histoires, mais qui à chaque fois offrent des points d'interrogation. La première, c'est une magnifique ghost story. Enfin, c'est en fait une jeune femme qui écrit sur qui sert de plume à des gens qui ont vécu des traumatismes, qui ont perdu une partie de leur famille, etc. Et il se trouve que sa mère lui raconte plein d'histoires et des histoires de fantômes. Et un jour, elle lui dit que son frère et le fantôme de son frère est revenu. Et le fantôme de son frère arrive, et il arrive mouillé, parce qu'il a traversé la mer. Et donc, la mer va sécher ses vêtements, etc. Le fantôme repart. Et je vais quand même vous lire, après je dirai presque plus rien, parce que cette nouvelle suffit. Je vais vous lire juste la fin du chapitre. Parfois, c'est comme ça que les histoires me viennent à travers elle, sa mère. « Je vais te raconter une histoire, me disait-elle. Une, deux, voire trois fois. » Mais le plus souvent, je pars à la chasse aux fantômes, chose que je peux faire sans sortir de chez moi. De même qu'ils hantent notre pays, nous hantons le leur. Ce sont des créatures blafardes qui nous craignent plus que nous les craignons. Voilà pourquoi nous les voyons si rarement, ces ombres. Voilà pourquoi nous devons les débusquer. Les talismans qui sont posés sur mon bureau, un short déchiré et un t-shirt élimé, tous deux propres, secs et bien repassés, me rappellent que ma mère avait raison. Les histoires sont de simples inventions de notre part, rien de plus. Nous les cherchons dans un monde parallèle au nôtre, puis nous les laissons sur place, vêtements laissés par les fantômes. Par des fantômes, voilà. Et toutes les nouvelles sont comme ça. La deuxième histoire, je dis rapidement, c'est l'histoire d'un jeune homosexuel qui se retrouve accueilli par deux gays de San Francisco. Il ne sait pas trop qu'il est homo, il ne veut pas l'assumer. Et c'est fait de façon très délicate. Il n'y a pas seulement on confronte les personnages de réfugiés aux Américains, puisqu'il y a de la mixité. Il y a des Américains qui partent au Vietnam aussi et qui découvrent à travers des proches, à travers... C'est magnifique de bout en bout, voilà.
Les réfugiés, livre de Viet Thanh Nguyen, traduit par Clément Baude, publié chez Belfond.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Le dernier livre à notre sommaire est celui d'un jeune Québécois dont on parle beaucoup dans cette rentrée littéraire, Kevin Lambert. Il n'a que 27 ans et son roman Querelle est publié au Nouvel Attila. On va y suivre concomitamment un conflit social et la vie sexuelle d'un des ouvriers. Querelle donc. Lecture cette fois par Romain de Bec-de-Lièvre.
La grève est partie pour durer. Un conflit de travail, comme dit l'étoile du lac. Pas facile à résoudre. Surtout quand on sait comment l'industrie du bois en arrache, ces temps-ci. Évolue, un chef de file mondial offrant une grande variété de produits forestiers, notamment du papier journal, des papiers à usage spéciaux, des papiers tissus, de la pâte commerciale et des produits du bois, a acheté dans les dernières années la majorité des scieries et des papeteries du lac Saint-Jean. pas trop intéressés par le bois d'œuvre. Ils n'ont fait aucune offre sur la petite usine du chemin Saint-Hubert. Tu tournes à droite quand tu sors de Roberval, sur la 169, vers Métabetchouan. C'est la seule scierie encore indépendante dans la région, avec le Petit Paris, à Saint-Ludger-de-Milo, racheté par Evolu pour être transformé en coopérative. L'argent va pas tout dans les poches des boss. Au moins, les gars reçoivent une prime. On dit « les gars », c'est une expression. C'est par habitude. On veut pas dire juste « les gars ». On veut dire « les gars » au sens large. C'est Jézabel qui le fait remarquer. On l'oublie pas, Jézabel. On l'inclut dans « les gars » quand on dit ça. Et Judith aussi. Et toutes les filles à l'usine sont dans « les gars ». Judith elle-même dit « les gars » pour parler du groupe de travailleurs et de travailleuses. Bernard prétend que pour travailler dans des conditions comme ça, il faut être un homme, même quand on est une femme. Ça a fait rire toute la tablée à la réunion syndicale.
Voilà pour un des aspects de l'écriture de Kevin Lambert. On va en parler évidemment pour, à propos de son livre Querelle, un premier tour de table, pour un condensé de la critique que vous allez développer, Lucille Comeau.
Un grand roman lyrique de lutte et de puissance.
Waouh ! Clémence Pouletti.
Malheureusement mitigé, très très mitigé.
Ouais. Très très mitigé, ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt du côté du négatif. Là, mais
oui, c'est vrai,
quand
c'est
complètement
du négatif.
Philippe Chevillet.
Pour moi, c'est une fable rebelle à deux faces, sociale et érotique, hélas inaboutie.
Alors, on va d'abord profiter de l'enthousiasme de Lucille Comeau.
Oui, c'est vraiment le... Ça s'appelle fiction syndicale. Hein, c'est
ça qui vous plaît le plus,
voilà,
pouvez le dire.
Voilà, ça j'aime bien. Moi, je trouve ça assez beau en plus comme sous-titre. C'est le roman d'une lutte de travailleurs du bois, donc on l'entendait dans l'extrait, à Roberval, qui est un petit bled du Québec. Et donc, on retrouve le temps d'une saison, parce que ça commence en hiver, il fait très froid, puis enfin, c'est plutôt l'été. Des travailleurs qui sont tous assez différents les uns des autres. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des générations différentes. Et d'emblée, la lutte, elle est en effet assez violente. On rentre dans quelque chose d'assez archaïque où clairement la négociation n'est pas vraiment une option, puisque tout au début, je dévoile rien. Hein, c'est le patron, la femme du patron a mis de la javel dans les cafés qu'elle distribue aux gens qui font le piquet dehors, et donc on doit les emmener à l'hôpital parce qu'ils sont empoisonnés. Puis ça va ne faire que devenir une catastrophe qui excède au final clairement la question de la lutte syndicale et qui devient une apocalypse. Vraiment une dimension mystique à la catastrophe qui s'affirme de plus en plus. Et tout ça dans une structure qui est assez étrange. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans du roman américain, dans du Tommy Orange, parce que ça mélange beaucoup de possibilités romanesques différentes. Ça tient un petit peu du roman choral, parce qu'il y a cette manière d'intégrer les discours des personnes avec l'indirect libre. Donc on entre successivement dans la parole des différents travailleurs. Il y a des moments qui sont pris en charge avec une narration très classique, omnisciente, notamment tout ce qui concerne le fameux personnage de Querelle, j'y reviendrai. Et puis, il y a des moments de pamphlet qui s'insèrent au milieu, qui sont à la première personne, notamment un chapitre où Kevin Lambert fait mine, évidemment très ironiquement, de prendre en charge la parole du patron, donc de l'ultralibéralisme qui est en face. Moi, ce que je trouve... C'est bâtard comme forme, c'est aussi très bâtard comme écriture. Il y a quelque chose de très adolescent dans cette bâtardise. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que les deux faces dont vous parliez, Philippe, à mon avis, elles font toute la richesse du roman, et c'est pas deux faces. C'est une articulation entre la question de la lutte sociale et la question érotique qui se fait dans un même corps, qui est donc le corps de Querelle, qui est un personnage complètement à part, on sait pas d'où il vient, c'est un jeune, il est absolument magnifique, c'est une sorte de joueur de flûte de Hamelin, il attire tous les jeunes hommes à lui et il couche avec absolument tout le monde, les pères sont jaloux de lui parce qu'il couche avec leurs enfants, et il y a vraiment quelque chose qui, à mon avis, réussit très bien, c'est de mettre au même endroit la puissance sexuelle. Dans ce qu'elle a de plus beau et archaïque, moi je trouve toutes les scènes de sexe magnifiques, et la puissance de lutte sociale. C'est-à-dire que Querelle, il défonce tout à tout point de vue.
On peut le dire comme ça.
Et du coup, c'est une direction esthétique et qui donne, à mon avis, toute sa cohérence au projet littéraire.
Bon, après l'éloge du bâtard, salut Olivier Rosenthal. Clémence Pouletti, très mitigée, disiez-vous, mais vous avez approuvé, on a entendu un oui sur les scènes de sexe très réussies.
Alors justement. Alors.
Ça commence par là, d'ailleurs. Hein, oui, l'ouverture du livre est une scène sexuelle.
C'est vrai.
Pas érotique, hein, sexuelle.
Sexuelle, oui. Mais justement, les premières pages ont complètement bafoué ce qui me restait d'innocence et heurté, j'en voulais encore. Seulement, je n'en ai pas eu encore. J'ai eu un piqué de grève qui m'a profondément ennuyée parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans les scènes avec querelle, je suis complètement enthousiaste, j'aime beaucoup, j'ai envie d'en lire plus. En plus, comme ça s'appelle querelle, je m'attendais à un livre sur querelle. Et puis, en fait, le piqué de grève, j'ai eu l'impression de lire une espèce de réadaptation Stéphane Brisé par Xavier Dolan, avec beaucoup de clichés. Non, mais c'est vrai, avec beaucoup de clichés, j'ai pas été séduite. J'ai trouvé que c'était quand même... on enfonçait des portes ouvertes en décrivant Judith, Jézabel, tout ça. Moi, ça m'a pas intéressée parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, déjà vu. Par contre, les scènes avec querelle, toute cette espèce de réflexion autour de la diabolisation de l'homosexualité, j'ai trouvé ça absolument remarquable. Maintenant, moi aussi, ce que je n'ai pas tellement aimé, c'est ces prises de position directes un peu. C'est notamment la page 149 où j'ai soufflé tout haut. Moi, Kevin Lambert, je prends la parole pour vous dire que ça me donne un petit peu l'impression, vous savez, dans ces films où vous vous demandez certainement comment j'en suis arrivée là. Bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en
fait... Ça vous a pas amusé.
Ça ne m'a pas amusé. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à la fin, j'ai refermé le livre, je me suis dit mince, je suis embêtée parce que je n'ai pas aimé alors que le sujet s'y prêtait et que la forme est intéressante. Et j'ai trouvé pourquoi, après vraiment, mais alors de nombreuses heures de réflexion, j'ai eu l'impression de lire le roman du premier de la classe de littérature contemporaine. En fait, c'est un roman qui est terriblement moderne, il reprend tous les sujets à la mode... La question la syndicale. Oui, c'est vrai que quand je dis moderne, je pense à Barthes, mais c'est pas très gentil. Et donc, en fait, ça m'a dérangée et j'ai eu l'impression que c'était, vous savez, on met les mots, les formes qu'il faut pour bien passer, pour dire que j'ai bien travaillé, que j'ai bien fait mon travail. C'est presque trop parfait et il n'y a pas le petit débordement, le petit enthousiasme qui fait qu'on en ressort un peu enchanté ou du moins... oui, provoqué, je sais pas comment dire, mais les scènes de sexe m'ont plu, mais pas les scènes syndicales. Il y a beaucoup de scènes syndicales.
Au fond, vous faites à Kevin Lambert le reproche que Lucille Comeau fait à Tommy Orange. C'est très bien fait, trop bien fait, et ça vous donne pas beaucoup de matière.
Je résume un peu grossièrement votre
pensée. Philippe Chevillier.
Ah, moi, je suis embêté aussi parce que Kevin Lambert, en plus, j'ai lu ses interviews et ça me plaît bien ce qu'il raconte. Chicoutimi, j'ai même passé une nuit à Chicoutimi en allant au Québec, je me souviens de cette ville et tout ça. J'avais envie d'aimer ce...
Vous n'avez pas rencontré querelle.
J'ai pas rencontré querelle. Et Grindr n'existait pas. C'était il y a très longtemps. Alors, si je suis pas aussi emballé, je parlais de face, Lucille en a parlé finalement, je vais lui répondre vraiment parce que je suis exact sur la même ligne, mais moi je trouve que c'est pas réussi, mais je comprends bien. Il y a l'aspect fable sociale, hein, ce mélange de chronique, qui pousse à la tragédie presque shakespearienne à la fin. On en dira pas plus, j'aimerais bien dire la fin, parce qu'à la fin on est content, mais bref, je ne dirai pas la fin de la fable sociale. Je la trouve, bon, en elle-même un petit peu convenue aussi par moment, parce qu'on a des personnages qui sont un peu prévisibles. Il y a les jaunes, il y a le syndicaliste dépassé Jacques Fauteux qui va devenir un rouge brun vers la fin, il y a le facho de service là, le Jean-Marie qui est pas dans l'entreprise, il y a les patrons qui sont vraiment très très méchants. Je trouve que bon, c'est pas mal, mais c'est pas révolutionnaire. Et puis de l'autre côté, on a la fable homosexuelle qui... Moi, alors, c'est vrai qu'il y a du Genet, évidemment, c'est Querelle. Le premier titre, c'était Querelle de Robert Val, le premier titre du livre.
Comme Querelle de Brest, non.
Le titre au Québec. Je le trouve un peu convenu aussi de ce côté, ce beau gosse qui trate tous les twinks sur Grindr et qui, c'est toujours une sexualité un peu univoque, il fait toujours un petit peu la même chose avec ses gamins. Il y a quand même un rajout, il y a les trois adolescents qui sont les trois Riri, Fifi, Loulou là, qui sont les trois petits punks qui cassent tout ça, qui renforcent un petit peu. Alors là, on est plus dans Burox que dans Genet, mais je trouve pas ça non plus tellement révolutionnaire, et ça m'a pas si touché que ça. Je trouve que les scènes de sexe sont pas mal, mais ça m'a pas vraiment emballé. Et je me disais ce qui devrait marcher, l'un sans l'autre, ça ne marche pas, mais les deux à la fois, c'est ça qui m'intéresse. Et les deux à la fois, je trouve que ça prend pas, parce que je trouve que les passerelles qu'il y a entre les deux sont trop ténues. Alors, il y a ce que vous disiez, les pères qui sont jaloux, il y a de temps en temps un ouvrier qui des ouvriers dans l'entreprise qui parlent de son homosexualité. Il y a Jézabel qui sa copine, la bonne copine, qui est le personnage féminin sympathique et qui est bisexuel. Et donc, il y a ces passerelles qui se font, mais au bout du compte, il est pas très présent, je trouve, dans la lutte syndicale, il est un peu en retrait. Et le discours, ce côté, cette étincelle qui devait naître de cette lutte sociale et de cette exultation des corps, qui se manifeste, qui essaie de se manifester à la fin dans les scènes lyriques, poétiques et terribles de la fin, eh ben, je trouve que ça prend pas. Et moi, j'ai l'impression qu'on est toujours entre deux eaux et que ces deux eaux, pour moi, restent finalement assez tièdes. Voilà.
Oui. Ouais. Moi, j'ai un peu souffert, hein, je dois dire, cinq mots en lisant Querelle, souffert non pas parce que je me projetais dans cette histoire, mais parce que je la trouvais très lourde, très convenue, très fléchée, très attendue. Oui. Moi, je vois aussi cet empilement d'idées, mais qui ne connecte pas. Je trouve en effet qu'il couche. Oui, il couche pas mal, mais il cache aussi, il coche. Je vais y arriver. Toutes les bonnes cases, Kevin Lambert, et je trouve sa virtuosité, alors pour le coup complètement vaine, parce que je trouve que ça raconte rien de nouveau sous le soleil. C'est un vieux soleil qui essaye de faire briller ce Robert Val, et moi je trouve que ça me réchauffe pas une seule seconde. Je file la métaphore d'une façon éhontée. Lucilla, comment?
Alors déjà là où vous voyez la vieille fiction syndicale typiquement ou des clichés sur la question de la lutte sociale, moi je les vois pas du tout. Je trouve pas que les personnages soient des clichés. Je trouve qu'au contraire c'est assez fin la manière dont ils expriment leurs opinions politiques. Et là pour le coup il y a du frottement, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout d'accord. Ils sont tous autour d'un piquet de grève.
Mais il y a tout autant d'opinions. Une fonction. Ce sont des personnages fonction que vous n'aimez pas d'habitude.
Je trouve pas. Vraiment je trouve pas. Je trouve que par exemple le personnage de Jézabel et de sa sœur Judith, donc qui sont les deux femmes, ils sont quand même assez complexes. Jézabel, c'est une femme qui est un peu comme Querelle, une sorte de principe de liberté et de chaos à l'intérieur du groupe.
Non, mais elle a cette fonction-là. Voyez.
Oui, d'accord. Bon, oui, non, mais c'est sûr qu'on peut de toute façon toujours trouver des fonctions à des personnages. Moi, je les vois exister. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la chair de Querelle. Je la vois vraiment exister. Et sur le côté prévisible, pour le coup, je l'ai pas du tout ressenti. Je m'attendais pas au déchaînement de violence finale. Je m'attendais pas du tout à cette direction un peu potentiellement en effet biblique, apocalyptique qui se met en place. Le destin de Querelle, je l'avais pas. Vraiment, ouais. Je l'avais pas avant de lire la fin.
Ah ouais,
et puis, je vois ce que vous voulez dire, pour finir, sur le côté, je coche des cases de la littérature contemporaine. Il y a des choses en commun avec le couple Johannin, avec Simon Johannin, les livres de jeunes. Ouais. Mais en même temps, à mon avis, ce rejoue-là quelque chose qui revient par cycle dans la littérature, qui est le lyrisme ou le romantisme, on peut dire ça comme ça, révolutionnaire. Il peut être ou pas efficace. Là, moi, je le trouve assez efficace. Je trouve que la forme de révolte, encore une fois, qui cristallise la question sexuelle et la question sociale, elle est assez explosive, vraiment.
Alors, j'adhère tout à fait au Johannin et moins à Lambert, donc voilà, c'est peut-être aussi une affaire de goût. Très rapidement, Clémence Pouletti.
Oui, concernant la révolte sexuelle, oui, complètement, je suis complètement d'accord avec vous, notamment dans la fascination qu'elle exerce jusqu'à point où on rejoint même la notion du réel selon Forest, qui est vraiment le désir et la mort, le deuil, son expression. Ceci étant, ce que je voulais rajouter, bon, effectivement, sur moi, ça n'a pas pris, j'ai pas trouvé que la révolte sociale était là, et je voulais simplement ajouter qu'on était dans une forme de réalisme magique, et c'est rare d'en trouver, en fait, du réalisme magique à ce point-là, parce que tout est réaliste, et puis finalement, il y a la page 149 qui marque vraiment, il y a un avant et un après cette page, et là, on tombe dans le surnaturel, dans l'irrationnel, et c'est là que, bon, ça peut devenir intéressant, mais finalement, ça compromet un peu le début du livre. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une balance qui ne joue pas. Voilà.
La dernière parole sera Philippe Chevillier.
Moi, j'attendais que de ce roman social, il fasse justement ce qu'il avait visiblement envie de faire quand tout est consommé, que finalement, ça soit l'histoire se termine par la nécessité d'une révolution de la liberté, de la sexualité qui exprime cela. Et moi, je l'ai pas ressenti. Voilà. Par ailleurs, c'est un roman peut-être adolescent, c'est ça que je préfère, moi, plus que le côté avoir pioché à droite et à gauche, de se dire qu'au fond, il est doué et qui fera des choses, à mon avis. Moi, ce qui m'agace, c'est d'entendre trop de partout, de louanges, comme si c'était le roman du siècle, alors que moi, il faut qu'il travaille encore, mais c'est l'impression que j'ai.
Querelle de Kevin Lambert, lisez ce livre chez Nouvelle Attila. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, David Dana nous a rejoint comme chaque soir pour nous rappeler la question du jeudi hier et nous donner sa réponse. David,
Quel est le titre du premier court-métrage d'Afzia Herzi? Et la réponse est Le Rodba.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Carte Blanche à Hassan Hadjadj. C'est jusqu'au 24 novembre à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Quelle est la question, David?
Quel est l'artiste ayant eu une carte blanche à la Maison Européenne de la Photographie en 2018?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. Prise de son ce soir, Déborah Dagobert, réalisation Alexandre Faugeron. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Demain, 19h, dispute cinéma avec Lily Blum, Charlotte Garçon et Lucille Como. Nous parlerons de Jeanne, de Bruno Dumont, de Deux mois, de Cédric Clapiche, un coup de cœur de Charlotte Garçon et puis le journal de Lucille Como sur la comédie sociale à la française en écho à la sortie du film La vie scolaire.